un jour, peu de temps avant la dactylotomie du pouce, peut-être même moins d'une semaine. Annie était arrivée avec deux bols géants de crème glacée à la vanille, une boîte de chocolat liquide Hershey, de la crème fouettée en bombe et un bocal dans lequel des cerises au marasquin rouge, comme du sang artériel, flottaient, semblables à des spécimens biologiques. « L'idée m'est venue de nous préparer des glaces aux fruits, Paul, » dit Annie. Elle parlait d'un ton faussement enjoué, ce qui ne plut pas du tout à Paul. Il n'aima pas davantage son regard fuyant. « Je suis en train de jouer à la méchante fille, » disait ce regard. Il était sur ses gardes, tous les sens en alerte. Il ne pouvait que trop facilement l'imaginer, avec cette expression, en train de disposer un paquet de linge ou un chat crevé en haut d'un escalier. « Ah, c'est gentil, Annie, merci, » dit-il tout en leur regardant verser le sirop de chocolat et gonfler deux cumulus de crème fouettée avec la bombe à pression. Elle accomplissait ses préparatifs de la main experte d'une vieille accro aux sucreries. « Inutile de me remercier. Vous l'avez mérité. Vous avez travaillé tellement dur. » Elle lui tendit son dessert. Il commença à être écœuré dès la troisième cuillerée, mais il continua vaillamment. Il valait mieux. L'une des règles d'or pour survivre dans ce somptueux cadre panoramique de montagne était « Quand Annie régale, faut s'en foutre plein la dalle. » Il y eut quelques instants de silence, puis Annie reposa sa cuillère, essuya du revers de la main un mélange de crème et de chocolat qui coulait sur son menton et dit d'un ton joyeux « Racontez-moi le reste !» Paul reposa lui aussi la cuillère. « Je vous demande pardon ?»«
Dites-moi le reste de l'histoire. Je ne peux plus attendre. C'est impossible. »
Ne s'était-il pas attendu à quelque chose de ce genre ? Si. Quelqu'un aurait-il apporté les 20 épisodes du feuilleton suivant de Rocketman au complet à la maison d'Annie ? Aurait-elle attendu ? N'en aurait-elle regardé qu'un par semaine, ou même qu'un par jour? Il contemplait l'édifice transformé en avalanche de son dessert. L'une des cerises disparaissait presque dans la crème fouettée, une autre flottait sur le sirop de chocolat. Il se souvint de l'aspect du salon, avec les assiettes pleines de glace fondue et vitrifiée, un peu partout. Non, Annie n'était pas du genre à attendre. Annie aurait regardé les 20 épisodes à la file en une nuit, quitte à en avoir mal aux yeux et à s'offrir une migraine carabinée. Car Annie adorait les douceurs. « C'est quelque chose que je ne peux pas faire, » répondit-il. Le visage de l'idole s'était aussitôt assombri, mais il avait cru aussi apercevoir l'ombre d'un soulagement.
« Ah, et pourquoi donc ?»«
Parce que mon compte serait réglé le lendemain matin, » eut-il envie de dire. Mais il ramala cette phrase, serrant les dents très fort. « Parce que je suis un compteur minable, » répondit-il à la place. Elle engloutit le reste de sa glace en 5 cuillerées monumentales qui auraient refroidi la gorge de Paul en dessous du point de congélation. Puis elle reposa son bol et le regarda avec colère, non pas comme s'il était le grand Paul Sheldon, mais quelqu'un qui aurait eu l'audace de critiquer le grand Paul Sheldon. Si vous étiez un conteur aussi minable, comment se fait-il que vous ayez fait des best-sellers et que des millions de gens adorent ce que vous écrivez? Je n'ai pas dit que j'étais un écrivain minable. Je pense même, au contraire, que je me défends très bien pour ce qui est d'écrire des histoires. Mais pour ce qui est de les raconter, je ne vaux pas tripette. C'est une vraie biscornouille d'excuses que vous me sortez là. Son visage s'assombrit encore. Ses mains se serraient en deux points luisants sur le tissu épais de sa jupe. Annie l'ouragan était de retour dans la chambre. Tout recommençait, sauf que les choses
n'étaient plus tout à fait les mêmes, non ? Elle le terrifiait toujours autant, mais son emprise sur lui n'en avait pas moins diminué. Sa vie ne lui paraissait plus une affaire aussi intéressante. Il faut que ou non. Il craignait seulement qu'elle lui fît mal.
Ce n'est pas une excuse, avait-il répondu. Les deux choses sont aussi différentes que les pommes et les oranges, Annie. En général, les gens qui savent raconter des histoires ne savent pas les écrire. Si vous croyez que les gens capables d'écrire des histoires savent aussi s'exprimer, c'est que vous n'avez jamais regardé un romancier bafouiller et s'empêtrer lors d'une émission littéraire à la télé.
Eh bien, je ne veux pas attendre, répliqua-t-elle boudeuse. Je vous ai préparé un délicieux dessert, et la moindre des choses serait de m'en dire au moins un peu. Je ne veux pas savoir toute l'histoire avec les détails, mais est-ce que le baron tue Kaltorp ? Ses yeux brillaient. C'est l'une des choses que j'ai vraiment envie de savoir. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait du corps ? Est-ce qu'il le met tout découpé dans ce coffre que sa femme ne quitte jamais des yeux ? C'est ce que je crois, moi.
Paul secoua la tête, non pour lui dire qu'elle se trompait, mais qu'il ne parlerait pas. Elle devint encore plus sombre. Sa voix cependant restait douce. Vous me mettez très en colère, vous le savez, Paul, n'est-ce pas ?
Bien sûr, je le sais. Mais je ne peux rien y faire.
Je pourrais vous obliger à y faire quelque chose, moi.
Je pourrais vous obliger à parler.
Mais elle avait l'air frustrée, comme si elle n'ignorait pas que c'était impossible.
Elle pouvait lui faire dire certaines choses, mais pas l'obliger à raconter.
Annie, est-ce que vous vous souvenez quand vous m'avez parlé des enfants que leur mère attrape en train de jouer avec des produits dangereux sous l'évier et qu'elle les oblige à s'arrêter ?
Maman, tu es méchante.
N'est-ce pas ce que vous êtes en train de me dire en ce moment ? Paul, vous êtes méchant.
Si vous me mettez encore plus en colère, je ne serai plus responsable de rien, répliqua-t-elle.
Mais il sentit que le gros de la crise venait de passer. Elle était étrangement vulnérable à ses concepts de discipline et de comportement.
Eh bien, c'est un risque qu'il faut courir parce que je suis exactement comme cette mère. Je ne vous dis pas de ne pas être méchante.
Je n'essaie pas de vous contrarier. Je vous réponds non parce que je veux que l'histoire vous plaise vraiment.
Et si je fais ce que vous me demandez, vous n'allez pas l'aimer et vous n'en voudrez plus.
Et qu'est-ce qui m'arrivera alors, hein, Annie ? Pensa-t-il en se gardant de le dire à haute voix.
Dites-moi au moins si le nègre Ézéchias sait vraiment où se trouve le père de Misérie. Vous pouvez bien me dire ça. Voulez-vous un roman ou voulez-vous que je réponde à un questionnaire ? Ne prenez pas ce ton méprisant avec moi. Alors ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que je vous explique. Rétorqua-t-il, criant lui aussi.
Elle eut un mouvement de recul, surprise et mal à l'aise. Mais son expression sombre et morose s'évapora. Et il ne resta plus sur son visage que cet air étrange de petite fille se sentant coupable.
Vous voulez tuer la poule aux œufs d'or. Voilà à quoi cela revient, reprit-il. Mais dans l'histoire, quand le fermier finit par la tuer, tout ce qui lui reste est une poule morte et un paquet de boyaux inutiles.
Très bien, Paul. Allez-vous finir votre glace ?
Je n'ai plus faim, dit-il.
Je vois. Je vous ai énervé. Je suis désolé. Je suppose que vous avez raison. J'ai eu tort de vous demander ça. Elle était de nouveau parfaitement calme. Il s'était attendu à ce que suivît une nouvelle période de profonde dépression ou de rage. Mais il n'y avait rien eu de tel. Ils étaient simplement retombés dans leur routine habituelle. Paul écrivant, Annie lisant sa production quotidienne, et suffisamment de temps avait passé entre la dispute et la dactylotomie pour qu'il n'eût pas fait le lien. Jusqu'à maintenant. J'ai rouspété pour cette histoire de machine à écrire, pensa-t-il, contemplant la vieille royale tout en écoutant le bourdonnement de la tondeuse à gazon. Il lui semblait moins puissant maintenant, et il ne se rendait que vaguement compte que ce n'était pas parce qu'Annie s'éloignait. C'était lui qui prenait du champ. Il s'endormait. Cela lui arrivait souvent en ce moment. Il s'endormait comme un vieux gâteux dans un hospice. Pas beaucoup. Je n'ai pas beaucoup ouspété cette fois-là. Mais une fois est une fois de trop, non? Plus que suffisante. C'était quand? Une semaine après le coup de cet immonde dessert? À très belle chose près, oui. Juste une semaine et un coup de gueule. À propos des clinques, des touches mortes qui me rendaient cinglé, je ne lui ai même pas suggéré d'acheter une autre occasion chez sa Nancy Corlépute, ou je ne sais pas comment elle l'appelle, une occasion avec des touches intactes. J'ai simplement dit que ces blinks me rendaient fou. Mais alors, le temps de le dire, presto bobo, vous avez vu le pouce gauche de Paul? Eh bien, vous le voyez plus. Sauf qu'elle ne l'a pas vraiment fait parce que j'avais râlé à propos de la machine, hein. Elle l'a fait parce que je lui ai dit non et qu'elle a été obligée de l'accepter. C'est un acte de rage. La rage était le résultat d'une prise de conscience. Laquelle? Eh bien qu'elle n'avait pas toutes les cartes en main. Après tout, que je disposais d'une certaine emprise passive sur elle. Le pouvoir du « il faut que ». En fin de compte, je fais une très honnête, Scheherazade. C'était dément. C'était comique. C'était aussi bien réel. Il pouvait être des millions à se moquer, mais c'était parce qu'il n'arrivait pas à prendre conscience de l'influence insidieuse que l'art, même un art aussi dégénéré que le roman populaire, peut avoir. Les femmes au foyer organisent leur emploi du temps en fonction des feuilletons de l'après-midi. Si jamais elles retournent sur le marché du travail, acheter un magnétoscope devient rapidement une priorité pour qu'elles puissent regarder ces mêmes feuilletons le soir. Lorsque Arthur Conan Doyle tua Sherlock Holmes aux chutes de Reichenbach, toute l'Angleterre victorienne s'était levée comme un seul homme pour exiger son retour. Le ton des protestations avait été exactement le même que celui d'Annie, non pas affligé, mais scandalisé. Doyle eut droit aux réprimandes de sa propre mère lorsqu'à l'occasion d'une lettre, il lui fit savoir son intention de se débarrasser de Holmes. La réponse indignée arriva par retour du courrier. « Comment tuer ce charmant Mr. Holmes? Folie! Il n'en est pas question !» Et son ami, Gary Rudman, employé à la bibliothèque publique de Boulder. Un jour que Paul était passé le voir, il avait trouvé les stores baissés et un voile de crêpe sur la porte. Inquiet, Paul avait frappé jusqu'à ce qu'il obtînt une réponse de Gary. « Laissez-moi, » lui avait dit Gary. « Je me sens déprimé aujourd'hui. Quelqu'un est mort. Quelqu'un d'important pour moi. » Lorsque Paul lui avait demandé qui, il avait répondu d'une voix fatiguée « Van der Volk ». Puis Paul l'avait entendu s'éloigner de la porte. Et Gary ne réapparut pas quand il frappa de nouveau. Il s'avéra que Van der Volk était un personnage de fiction. Un détective créé puis détruit par un écrivain du nom de Nicolas Freeling. Paul avait eu la conviction que la réaction de Gary était non seulement simulée, mais avait fait l'objet d'une mise en scène ostentatoire. Bref, qu'il avait posé. Il garda cette conviction jusqu'en 1983, année où il dévora Le Monde selon Garp. Il commit l'erreur de lire la scène où le jeune fils de Garp meurt, empalé sur le levier de changement de vitesse, peu avant de se coucher. Il lui fallut des heures pour s'endormir. Il n'arrivait pas à chasser la scène de son esprit. L'idée qu'il était absurde d'éprouver du chagrin pour la mort d'un personnage de fiction ne manquant pas de lui traverser l'esprit tandis qu'il se tournait et se retournait dans son lit, car c'était exactement ce qu'il éprouvait, du chagrin. De l'avoir compris ne l'avait pas pour autant aidé. Et il s'était soudain demandé si Gary Weinman n'avait pas été beaucoup plus sérieux à propos de Van der Wolk que Paul ne l'avait tout d'abord cru. Et du coup, un souvenir plus ancien avait refait surface. Il avait 12 ans. Il venait juste de finir Sa Majesté des Mouches de William Golding par une chaude journée d'été, et il était allé jusqu'au réfrigérateur avec l'idée de prendre un verre de limonade bien fraîche. Lorsqu'il avait soudain changé de direction et d'allure pour se précipiter dans la salle de bain, penché sur les toilettes, il avait alors vomi. Paul se souvint brusquement d'autres exemples de cette étrange manie. Comment les gens, par exemple, envahissaient chaque mois les quais de Baltimore lorsqu'arrivait la nouvelle livraison de la petite Dorrit ou de Oliver Twist de Dickens. Il y avait eu des noyés, ce qui n'avait pas découragé les autres. Cette vieille femme, âgée de 105 ans, qui avait déclaré qu'elle vivrait jusqu'à ce que le bon Mr. Glassworthy eut fini la saga des Forsythe et qui était morte moins d'une heure après qu'on lui avait fait la lecture de la dernière page du dernier volume. Ce jeune alpiniste, hospitalisé dans un tel état d'hypothermie que les médecins l'avaient condamné et à qui ses amis avaient lu Le Seigneur des Anneaux sans interruption pendant 24 heures, jusqu'à ce qu'il sortît du coma, et de centaines d'autres incidents de ce genre. Chaque auteur de best-sellers de fiction, supposait-il, devait avoir son propre exemple personnel d'un lecteur complètement envoûté par le monde de faux-semblants qu'il avait créé. Autant d'exemples du complexe de Scheherazade, se disait Paul, rêvassant tandis que le ronflement de la tondeuse à gazon enflait et s'éloignait, son lointain gonflé d'écho. Il se souvint de deux lettres suggérant la création de parcs d'attractions sur le thème de Misery à l'échelle de Disneyland. Un plan grossier accompagnait même l'une de ces lettres. Mais celle qui tenait le pompon, si l'on acceptait Annie Wilkes et l'entrée fracassante qu'elle avait faite dans sa vie, était une certaine Madame Roman des Sandpiper 3 de Ink Beach en Floride. Madame Sandpiper, dont le prénom était Virginia, avait transformé l'une des chambres de sa maison en salon Misery. Elle avait envoyé des photos Polaroid du rouet de Misery, de l'écritoire de Misery, enrichie d'une lettre de remerciement adressée à M. Favre, qui précisait qu'elle honorerait de sa présence la fête de l'école du 20 novembre et rédigée d'une écriture qui parut à Paul convenir surnaturellement à son héroïne. Non pas ronde et fleurie, mais appliquée et à demi féminine. Du canapé de Misery, de l'album de Misery, avec des aphorismes comme « Laissez-vous instruire par l'amour, n'essayez pas de l'instruire », etc. Le mobilier, précisait Madame Ronande, Virginia, Sandpiper, dans sa lettre, était entièrement authentique, sans une seule copie. Paul n'avait aucun moyen d'en être sûr, mais soupçonnait qu'elle disait la vérité. Si c'était le cas, cet échantillonnage de trompe-l'œil avait dû coûter des milliers de dollars à Madame Roman des Virginia Sandpiper. Madame Roman des Virginia Sandpiper se hâtait de préciser dans sa lettre qu'elle ne se servirait pas du personnage créé par Paul pour faire de l'argent, ni maintenant ni plus tard. Mais qu'elle tenait en revanche à ce qu'il vit les photos et, si possible, ce qui n'allait pas. Certainement beaucoup de choses, selon elle. Madame Roman D. Virginia Sandpiper
espérait aussi qu'il voudrait bien lui donner son opinion.
Contempler ces clichés lui avait fait une impression étrange, surnaturellement intangible, l'impression de regarder des photos de sa propre imagination. Dès cet instant, il sut qu'à chaque fois qu'il voudrait imaginer le petit appartement privé de Misery, les polaroïdes de Madame Roman des Virginia Sandpiper lui viendraient immédiatement à l'esprit et obscurciraient son imagination de leur matérialité joyeuse mais unidimensionnelle. Lui dire ce qui n'allait pas ? De la folie furieuse. À partir de ce moment, ce serait lui qui n'aurait de cesse de se poser la question. Il avait répondu par un mot bref où il la félicitait et disait son admiration, mot qui ne tenait aucun compte de certaines questions qu'il s'était posées à propos de Madame Roman de Virginia Sandpiper, comme jusqu'à quel point était-elle ma boule ? Il avait reçu par retour de courrier une deuxième lettre, bourrée d'une nouvelle série de polaroïdes. Il y avait dans le premier envoi de Madame Roman de Virginia Sandpiper une lettre de 2 pages et 7 clichés. Dans le second, une lettre de 10 pages et 40 polaroïdes. La lettre était l'historique complet et finalement épuisant des aventures de Madame Roman de Virginia Sandpiper pour trouver chacun des objets. Elle précisait combien elle les avait payés et comment il avait fallu les restaurer. Madame Roman de Virginia Sandpiper disait aussi avoir rencontré un homme du nom de McKibben qui possédait un vieux fusil à écureuil et qu'elle avait persuadé de tirer une balle sur le mur à côté de la chaise. Si Madame Roman de Virginia Sandpiper ne pouvait garantir l'authenticité de l'arme, elle était sûre, en revanche, du calibre. Les photos consistaient surtout en détails pris de près. S'il n'y avait eu les légendes écrites au dos, il aurait tout aussi bien pu s'agir de ces détails agrandis, soumis comme énigmes dans certains magazines, où l'on prend un bras de compas pour un pylône, ou le couvercle à arrachement d'une boîte de pierre pour une sculpture de Picasso. Paul n'avait pas répondu à cette lettre, ce qui n'avait pas découragé Madame Roman de Virginia Sandpiper, laquelle en avait envoyé 5 de plus. Les 4 premières, avec d'autres photos, avant d'y renoncer, étonnée et légèrement mortifiée. Sa dernière missive avait été signée avec raideur. Madame Roman de Sandpiper. L'invitation, pourtant faite si pathétiquement, de l'appeler Virginia, avait disparu. En dépit de leur côté fortement obsessionnel, les sentiments de cette femme n'avaient jamais débouché sur la fixation paranoïaque d'Annie Wilkes. Mais Paul comprenait maintenant qu'ils avaient une même source. Le complexe de Scheherazade. Le profond et élémentaire pouvoir de fascination du « il faut que ». Il dériva encore plus et s'endormit.